tous et à toutes et bienvenue sur Voices of Learning, le podcast qui donne la parole aux experts de la formation. Chaque mois, nous recevons un invité qui nous éclairera sur sa vision du monde du learning, ses fiertés, ses frustrations, ses conseils et surtout, quel avenir pour la formation. Notre objectif est de comprendre le passé pour mieux anticiper le futur de la formation. Alors, nous interrogeons des professionnels de différents types d'organisations, entreprises, organismes de formation, influenceurs et bien d'autres encore, pour une rétrospective complète et enrichissante. Il y a des voix, alors écoutons-les. Lors du dernier épisode, nous avions reçu Yannick Raffenel avec ses multiples casquettes en tant qu'expert learning. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle voix, et cette fois-ci orientée corporate. Alors, pour ce nouvel épisode de Voices of Learning, j'ai le plaisir de recevoir François Debois de L'Oréal. Bonjour François, merci beaucoup d'être présent parmi nous. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter et nous en dire un peu plus sur ton métier.
Bonjour Amy, merci de m'accueillir dans ce nouvel épisode de Voices of Learning. Je suis ravi de passer ce moment avec toi et avec nos auditeurs. Donc moi je suis François, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le monde du learning. J'ai été consultant formateur, donc en charge de développer des projets de formation sur mesure pour mes clients. Puis j'ai été responsable d'une gamme de formations packagées sur le thème du management de projet et de l'innovation. Puis j'ai été en charge de l'innovation au sein du groupe Segos. Et aujourd'hui, je pilote les opérations du learning chez L'Oréal. Donc concrètement, mon équipe gère l'écosystème digital learning, la data, les méthodes de travail entre nos équipes globales, nos zones et nos pays, et l'upskilling de notre communauté sur le learning. Donc voilà, comme tu peux le constater, j'ai vraiment exercé une série de métiers très 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 différents dans le monde du learning.
Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler dans la formation ?
Alors c'est arrivé complètement par hasard. Avant de rejoindre Segos, je travaillais dans les sales pour un groupe de confiserie de chocolat américain. Et je me suis rendu compte qu'en m'intéressant à mes clients, aux collaborateurs de mes clients, en leur donnant des informations sur les produits, sur la qualité des produits, sur le merchandising, ça avait un impact favorable sur les ventes. Donc j'ai monté un programme de formation sans avoir aucune expertise sur le sujet. Et ce programme a très très bien fonctionné. Moi, ça m'a vraiment donné le virus de la formation parce que j'ai vu l'impact sur les individus et sur la performance. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment devenu ma trajectoire professionnelle. Et j'ai eu cette opportunité d'entrer dans un organisme de formation. Et ça m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie.
En effet, quel beau changement de parcours. J'en viens à ma question suivante. On va commencer à entrer dans le vif du sujet. Quelles évolutions ou quels événements marquants as-tu vu dans le monde du learning ces 5, 10 ou 15 dernières années ?
Waouh ! Alors, des évolutions, c'est sûr qu'on en a connu. On peut même dire qu'on a connu quelques disruptions au cours des dernières années. Et si je devais faire un zoom spécifique, je dirais que la première évolution marquante de notre métier, c'est celle du marketing de la formation. De la même manière, en fait, que dans le business, l'expérience a supplanté le produit, c'est-à-dire qu'on est plus attentif aux émotions qu'on fait ressentir aux consommateurs dans l'acte d'achat, dans la consommation du produit. Dans notre monde de la formation, on est de plus en plus attentif à ce qui environne l'événement de formation en tant que tel, donc ce qui se passe en amont, la manière dont on peut créer les conditions de l'engagement des learners, comment on peut les mettre en projet d'apprendre, et puis ce qui va se passer en aval, donc la manière dont on peut les stimuler. On pourrait même parler de nudge, si on reprenait le vocabulaire du marketing, comment on les stimule pour qu'ils aient l'envie d'appliquer en situation de travail ce qu'ils ont appris. Et donc de plus en plus, finalement, on s'inspire de techniques de marketing pour créer les conditions de l'engagement en amont et créer les conditions de la mise en œuvre et in fine de la performance en aval. Et ça, pour moi, c'est la première grosse évolution majeure de notre métier. La deuxième évolution majeure, c'est celle de la data. Alors, ça semble un peu une évidence. Et en fait, en réalité, on a toujours eu une appétence pour la data parce qu'on a toujours eu l'habitude de mesurer alors soit la satisfaction, soit la perception d'impact de nos actions de formation dans le passé. Donc, on a toujours fait ça. Le point de bascule, je trouve, aujourd'hui, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en fait, on était dans une logique de descriptive analytique, c'est-à-dire qu'on regardait dans le rétroviseur ce qu'on avait fait, la qualité de notre action, et puis parfois on était content, parfois on l'était moins, mais finalement l'action était déjà réalisée. Et là, on va rentrer de plus en plus dans des niveaux de maturité supérieurs dans la data. Donc, au-delà de décrire, en fait, ce qui s'est passé, on va entrer de plus en plus dans du prédictif, voire dans du prescriptif, c'est-à-dire que la data va orienter notre action et va nous aider à mieux piloter, finalement, notre activité de learning et l'impact qu'on peut apporter aux individus et à l'organisation. Donc finalement, on est dans la continuité de la data, mais avec quand même une vraie maturité additionnelle et un champ des possibles qui s'ouvre, que je trouve vraiment, vraiment fascinant. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième grosse évolution. La troisième, qui est liée en fait à la data, c'est celle de performance. Donc dans le passé, c'est vrai qu'on pouvait percevoir le learning un peu comme une commodité. Et là, le learning devient de plus en plus un strategic partner. Alors, on parle de positionner en fait le learning dans la C-suite. On se dit qu'on doit être de plus en plus ponté dans les COMEX. Bon, à minima, en tout cas aujourd'hui, on sait qu'il y a une exigence vis-à-vis du learning pour accompagner des projets de transformation, d'upskilling massif ou de reskilling de certaines populations, en complément d'assurer le run, parce qu'il faut quand même assurer un socle de compétences de base à tous les collaborateurs qui sont dans leur fonction. Donc on a une vraie exigence additionnelle sur le learning en termes de performance. Et pour moi, la quatrième évolution, c'est le fait qu'on devienne finalement des grands praticiens de la tech. Alors, c'est vrai que là aussi, on a un héritage de ça. On manipulait déjà du e-learning et des LMS dans le passé. Mais avec la pandémie, on va dire que le game a changé. Alors, la classe virtuelle s'est diffusée plus efficacement. Alors, c'est assez intéressant quand même de dire qu'il y a 3 ans, c'était pas si évident que ça de mobiliser des collaborateurs en classe virtuelle et de les organiser au sein des organisations, alors que maintenant, c'est devenu une évidence pour tout le monde. Et au-delà de ça, on voit bien qu'il faut maîtriser un écosystème d'outils auteurs, de plateformes, de LXP. On voit que demain, il faudra maîtriser du low-code, no-code. Donc, il faut qu'on devienne à minima un peu tous tech-savvy, avec une appétence pour la technologie, une compréhension des mécaniques des projets de systèmes d'information, parce que c'est aussi une des attentes du learning que d'être efficient sur la partie tech. Donc en fait, pour moi, il y a à la fois de la continuité, il y a des choses qu'on faisait déjà, sur la data, sur la mesure de performance, sur la tech, mais on est vraiment en train de rentrer dans une ère où notre niveau de maturité dans le learning se développe. Et le défi, c'est qu'on garde quand même notre ADN pédagogique, parce que du marketing, de la data, de la performance et de la tech sans pédagogie, ça n'apporte pas de valeur par rapport à notre métier. Donc il faut qu'on garde finalement un vrai savoir-faire de pédagogie.
Que vois-tu apparaître d'intéressant sur le marché des prestataires de formation et pourquoi ?
Alors, en ce qui concerne les contenus ou les technologies qui sont disponibles sur le marché, plus que jamais, pour moi, on doit faire preuve de discernement. Alors, savoir quand acheter du sur-étagère pour aller vite, parce que les produits ou les technologies ont fait leurs preuves. Ils ont été testés par des centaines ou des milliers d'apprenants avec d'autres clients. Donc, ça vraiment permet de gagner en agilité, en rapidité de mise en œuvre. Donc, ça, c'est un premier cas de figure. Et puis, il y a le cas de figure où on doit se lancer du sur-mesure, ce qui a une vraie valeur ajoutée à être sur du sur-mesure dans les contenus, dans l'approche pédagogique, dans la technologie. Et il y a un vrai défi, finalement, de garde d'aiguillage qu'on doit jouer, nous, learning, quand nos clients internes nous sollicitent, en fait, pour des programmes d'upskilling, du reskilling, des transformations. Donc, on a de plus en plus une valeur ajoutée en termes de sourcing pour gagner en agilité et, in fine, en performance sur les projets.
Selon toi, quels sont les enjeux actuels auxquels se confronte la formation ? Et également les enjeux en interne chez L'Oréal ?
Alors pour moi, il y a un premier enjeu qui est de réussir à sanctuariser du temps pour apprendre. Parce qu'on est dans une situation où ben, la charge de travail est massive, les collaborateurs des organisations cherchent aussi à trouver de nouveaux équilibres dans des modes de travail hybrides. Donc le rapport au temps a évolué. Et c'est vrai qu'auparavant, on était dans des unités de temps très consolidées quand on faisait du présentiel. Donc on mettait les gens deux jours en formation dans une salle. C'était vraiment du temps à la fois consolidé, protégé, on va dire, de l'environnement extérieur. Là où aujourd'hui, ce temps-là, il est plus fractionné dans le temps. Et en plus, c'est du temps sur le poste de travail ou chez soi, dans des conditions, en tout cas, il y a un écosystème qui est différent. Donc comment sanctuariser du temps ? Pour moi, ça passe d'une part par le fait de ritualiser du temps, ce qui correspond bien aussi finalement aux bonnes pratiques d'apprentissage. Donc, est-ce que c'est du Friday Learning ? Est-ce que c'est du One Learning a Day ? Là, je crois que chaque organisation peut développer les codes et les rituels qui peuvent convenir à ses rythmes propres. Mais le fait d'instaurer ces rituels, ça permet d'avoir un battement de cœur collectif et une vraie intention finalement d'apprendre au même moment. Donc ça, c'est une première clé. Pour moi, la deuxième clé, c'est également, alors ça peut sembler évident, mais d'avoir des très très bons produits, des très très bonnes expériences de learning, parce que plus les expériences que nous délivrons seront stimulantes, plus nos collaborateurs auront envie d'investir du temps pour apprendre. Finalement, il faut qu'on crée une addiction au learning au travers de la qualité de ce qu'on délivre. Et donc au-delà, il y a les rituels, il y a l'excellence de ce qu'on délivre. Et puis après, pour moi, le troisième point, c'est de créer de l'intentionnalité chez les learners. C'est-à-dire les mettre en projet d'apprendre versus leur pousser du contenu et leur demander « vas-y, apprends ». Donc plus ça viendra d'eux, plus on sera en logique de pool, plus on aura d'intentionnalité, plus ils vont par eux-mêmes dégager du temps pour apprendre. Alors nous, chez L'Oréal, par exemple, on a mis en place un nouveau principe de conversation, de meaningful conversations, qu'on a appelé « connect ». Et un des enjeux de ces conversations, c'est notamment de permettre aux collaborateurs de se fixer avec son manager des objectifs de développement, donc de se projeter dans le futur, dans les compétences que il ou elle souhaite acquérir. Et donc, ça crée un socle d'intentionnalité beaucoup plus fort. Et c'est pour moi une des clés pour réussir vraiment à sacraliser du temps pour apprendre. Donc, c'est pour moi le premier défi, la notion de temps. Et on a un deuxième défi qui est plus lié à notre operating model, qui est le fait de pouvoir simplifier l'offre et puis de personnaliser l'expérience. Alors l'offre de formation, elle a toujours été long tail, donc c'est une offre dans laquelle on peut avoir des centaines ou des milliers de produits disponibles pour les employés. Et aujourd'hui, on entre dans une ère où nos apprenants, aussi parce qu'ils ont moins de temps, ils sont un peu perdus. Donc, il faut créer une expérience plus personnalisée. Ça peut passer par des algorithmes, donc ça peut passer par de la plateforme et de la technologie, mais ça passe aussi, pour moi, par une meilleure prescription humaine. Moi, je crois beaucoup à l'équilibre entre la technologie et l'humain. Donc, on a plus que jamais besoin d'avoir des learning managers qui sont en capacité de faire des prescriptions très personnalisées, de jouer un rôle de conseil, en fait, très aigu, pour les apprenants et pour les apprenantes, et pour les mettre sur les bonnes trajectoires et leur simplifier la vie.
Je sais qu'auparavant, tu travaillais dans un gros organisme de formation. Qu'est-ce que ça fait à présent d'être du côté des clients ?
Alors, c'est une bonne question. Alors, je peux dire que je continue à driver le learning comme un business. Alors, quand j'étais consultant, j'avais cet objectif d'assurer mon plan de charge, d'avoir un bon impact dans les formations que je designais, que je délivrais, parce que c'est ça finalement qui créait la fidélité de mes clients et qui simplifiait la vie à l'arrivée. Et j'ai envie de dire que chez L'Oréal, c'est pareil, dans le sens où il faut qu'on assure une excellente qualité de nos prestations, des solutions de développement qu'on met à disposition de nos collaborateurs. Ça doit être finalement notre North Star. Et aussi qu'au travers de la data, on a une vraie capacité à comprendre ce qu'on délivre et à nouveau être prédictif par rapport aux ambitions qu'on peut avoir sur une transformation donnée ou sur les compétences qu'on veut développer. Donc, bah voilà, je retrouve quand même quelques repères que j'avais déjà. Et en même temps, c'est la première fois que je travaille pour un département HR, puisqu'auparavant, le learning, c'était mon business. Donc, cette dimension-là est complètement nouvelle pour moi.
Est-ce qu'il y a des innovations qui, selon toi, ont de l'avenir et d'autres auxquelles tu crois moins ?
Alors, je crois que l'innovation est cyclique. Donc, je suis persuadé qu'on va redécouvrir des modes d'interaction, des techniques d'animation pédagogique qu'on utilisait en fait en présentiel il y a 20 ans, qui étaient très appropriées à l'époque et qui vont redevenir appropriées aujourd'hui parce qu'elles vont permettre de réenchanter des moments d'apprentissage synchrone, vraiment de stimuler à nouveau l'envie d'apprendre. Donc le plus que jamais, on va se reconnecter à ces moments-là, ces activités pédagogiques-là qui étaient extraordinaires à l'époque et qui vont redevenir extraordinaires. Et puis, sur le plan technologique, moi, je crois beaucoup en l'adaptive learning parce que ça correspond à un processus naturel d'apprentissage dans le temps. Ça correspond aussi à un besoin du business d'ancrer certaines pratiques professionnelles. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressé à Domocio dans cet environnement d'adaptive learning. Et au-delà de l'adaptive learning, on a une prochaine frontière, c'est celle du O+O+O. Alors, ce que j'entends par O+O+O, c'est le offline, le online et le on-chain. Alors, le on-chain pourrait correspondre au métaverse. En sachant qu'aujourd'hui, on a déjà de belles expériences de formation immersive, avec de la réalité virtuelle, dans les mondes du manufacturing, du retail, de l'onboarding. Donc on sait que ça peut marcher. Et en même temps, on n'est pas encore dans une logique de monde persistant tel que pourrait l'offrir le métaverse. Et pour moi, ça reste une question très ouverte, au sens où je ne suis pas encore sûr que le métaverse pourra améliorer l'expérience, créer encore plus de liens ou accélérer la montée en compétences. Et je crois que la seule manière en fait de répondre à cette question, ça va être de tester à petite échelle, de faire des POC, des proof of concept, et d'apprendre de ça collectivement. Donc, en tout cas, on sait qu'à court terme, la réalité virtuelle est très adaptée à certains environnements. Donc, c'est déjà une première manière de mettre un pas dans cette, de faire un pas dans cette direction.
Peut-être que tu as des conseils à donner ou des anecdotes à nous raconter ?
Alors, en termes d'anecdotes, moi, j'ai vécu quelques aventures de consultants, formateurs, croustillantes, mais comme l'ensemble de mes collègues. Donc, j'ai été amené à animer dans une salle sur un quai de gare avec moins de chaises que de participants, donc c'est un peu épique. J'ai été amené à animer des formations dans une boîte de nuit, dans un refuge, à dormir avec 14 participants que je n'avais jamais rencontrés de ma vie et en n'étant pas du tout préparé à ça. Et en fait, même si sur le coup, ça semble insurmontable. Avec du recul, c'est des expériences humaines qui sont extraordinaires. Et puis, moi, j'y pense régulièrement parce que finalement, dans notre monde d'information, on est au cœur de ces expériences humaines-là, de ce qui crée du lien, de ce qui forge des expériences durables. C'est aussi pour ça que moi, je considère que la formation contribue à la corporate glue parce qu'on met des gens d'horizons différents ensemble, dans les mêmes lieux, au même moment. Et puis, pour peu que la pédagogie ait été bien pensée, il se passe des choses extraordinaires. Et on crée du lien, on crée cet actif de lien là qui est juste incroyable. Donc voilà, je me remémore ces anecdotes un peu fun avec des groupes.
Je vais clôturer cette interview avec une dernière question. Quand as-tu entendu parler de Domocio pour la première fois et dans quel contexte ?
Alors, j'ai entendu parler de Domocio il y a quelques années dans le cadre d'un événement People Development and Learning. Et comme je te l'indiquais tout à l'heure, Amy, en fait, moi, j'avais une vraie appétence pour l'adaptive learning parce que c'est un vrai moyen de créer des parcours personnalisés pour nos apprenants. et donc de leur permettre de consacrer du temps à des activités pédagogiques qui ont de l'intérêt pour eux. Et pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, parce que ces activités pédagogiques auront du sens pour eux, ils vont y consacrer plus de temps. Et donc, ils vont se voir progresser de plus en plus. Donc, vraiment, pour moi, l'adaptive learning, c'est un vrai levier de motivation. C'est un vrai moyen d'efficacité pédagogique. Et puis, in fine, c'est le moyen d'accéder à de la compétence. Le time to skill, finalement, va être réduit grâce à l'adaptive learning.
Eh bien, François, je te remercie pour cet échange. Ton expertise et ta vision des choses ont rendu l'interview vraiment très enrichissante. Encore merci.
Merci pour l'invitation, Émilie. J'ai été ravi de passer ce moment avec toi et avec nos auditeurs. Et à très bientôt.
Merci à tous pour votre écoute, en espérant que ce podcast vous aura plu. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode avec de nouvelles voix expertes en learning. En attendant, n'hésitez pas à partager ce contenu tout autour de vous. Belle journée à tous !